100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bon ben bien haut, mais les rangs va mi mou. Bon ben bien nia c'est tombé les gars au va au mouchon.
Bonjour. Plus d'autres Moria, deux semaines après l'incendie de ce camp devenu le symbole de l'échec de la politique migratoire de l'Union européenne, la Commission doit présenter demain mercredi sa proposition de réforme de l'asile, alors que la question provoque toujours de profondes divisions au sein des 27. Moria, c'est le plus grand camp d'Europe, 12 700 demandeurs d'asile qui se sont retrouvés à la rue dans un dénuement quasi total. Retour à Moria avec Joël Brunner.
Un petit sac en bandoulière contenant ses papiers de famille, une poussette et les vêtements fatigués qu'il porte sur lui, voilà tout ce que possède Abdullah Azim Sultani, originaire d'Afghanistan, après l'incendie du camp de Moria. Sur la route qui mène à Mytilène, la capitale de l'île de Lesbos, où il est alors coincé, le jeune homme de 26 ans raconte, la sueur au front en raison d'un puissant soleil, l'incident qu'il a envoyé à la rue avec les siens, c'est-à-dire sa femme et son bébé de 6 mois.
Tout ce qu'il me reste, ce sont mes documents. Vous pouvez voir aussi dans quel état sont mes vêtements. Tout le reste a brûlé. C'est tout ce que j'ai, rien d'autre. J'ai rien pu ramener d'autre du camp de Moria. Cela s'est passé en pleine nuit, j'étais en train de dormir lorsqu'un voisin est venu dire qu'il y avait le feu et qu'il fallait sortir. J'ai attrapé mes papiers et j'ai pris ma femme et ma fille avec moi. Les flammes m'ont fait extrêmement peur et j'ai donc dû abandonner la plupart de mes affaires parce que le feu était très proche de notre conteneur. Ma femme dormait, je lui ai pris la main et je lui ai dit « il faut sortir ». Nous avons pris notre fille avec nous. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Sortir précipitamment avec ma femme et ma fille.
Notre interview durera 12 minutes. 12 minutes durant lesquelles le jeune homme répétera 7 fois qu'à ce moment précis, personne ne peut venir en aide à sa famille, jetant autour de lui un regard aussi inquiet que lucide sur la situation des milliers d'autres également dans le besoin. 12 minutes, au cours desquelles on n'entendra pas une fois le son de la voix de Kristina, le bébé dans la poussette qu'il tient entre ses mains. Le nourrisson n'est alors pourtant pas endormi, mais simplement amorphe. Outre des problèmes de peau, le père explique que sa fille éprouve des difficultés à respirer.
Les nuits sont très compliquées pour mon bébé. J'aimerais voir un docteur, mais je ne sais pas où sont les médecins. J'ai demandé à un policier, mais il s'est montré agressif et m'a dit « Je n'en sais rien, va à Moria ». Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas à Moria? Il ne reste rien, tout a brûlé. Nous venons d'Afghanistan, de la ville de Razni. Pour nous, ce n'était pas un choix, mais une obligation de partir, parce que la vie est impossible en Afghanistan.
Cette violence que de nombreux demandeurs d'asile fuyaient, ils la retrouvent régulièrement sur la route de l'exil. Aux tensions internes entre réfugiés s'ajoute l'usage régulier de gaz lacrymogène par la police et les brutalités d'une partie des habitants de l'île excédés par une situation qui dure depuis près de 5 ans. En particulier, depuis que l'Europe a mis en place, après la vague migratoire de 2015, une politique dite de « hotspot » qui bloque les demandeurs d'asile à leur point d'entrée sur le continent, comme ici à Lesbos.
Are you speak Persian? Little English.
Sur cette île voisine des côtes turques, les Hazaras, ces chiites afghans aux traits asiatiques, les victimes de discrimination dans leur pays, sont majoritaires. Des Hazaras, comme Marnaz, 27 ans, qui parle difficilement l'anglais, et sa vieille mère de 85 ans. Il faut que Mohamed Madi, un jeune afghan à peine majeur, se fasse leur interprète.
Là, cette dame âgée explique que ses médicaments ont brûlé et qu'elle n'a plus rien pour se soigner. Et vous savez, le soir ici, il fait très froid. Nous n'avons pas de couverture. Regardez-là, cette vieille dame, elle ne peut pas rester dans le froid.
Un foulard sur la tête et un bébé pendu au cou, une autre mère de famille afghane s'avance pour faire traduire ses doléances.
Cette dame dit qu'elle n'a même pas de lait en poudre à donner à son bébé, qu'elle a perdu les papiers de ses enfants, qu'elle ne sait pas où elle est. L'argent qu'elle avait a disparu dans les flammes, elle n'en a plus et elle n'a plus rien.
Où aller ? Pour toutes ces familles, le chemin mène dorénavant à un champ de nouvelles tentes entre route et mer, sur le site dit de Karatepe, gardé par des militaires. Face à la peur d'un nouveau Moria, les autorités ont tenté de rassurer les demandeurs d'asile, comme dans ce message officiel aux accents orwelliens diffusé en ligne.
Cher immigré, protège ta famille. Viens dans le nouveau camp qui a été construit pour ta propre sécurité, ta propre protection et pour la protection de ta femme et de tes enfants. Enregistre-toi dans le nouveau camp. C'est le seul endroit où tu seras à l'abri. Ceux qui te disent que le nouveau camp est une prison te mentent et te manipulent. Seules les autorités grecques disent la vérité. Le nouveau camp a été construit pour ta sécurité et pour répondre à tes besoins.
La vérité, c'est surtout qu'à présent, tous ces chers immigrés n'ont nulle part ailleurs où aller. En attendant de savoir si les portes de l'Europe leur seront ouvertes ou non.
L'accueil des migrants, leur répartition à travers l'espace européen est une source de conflit depuis des mois entre États membres. La Grèce, l'Italie, Malte accusent leurs partenaires de les laisser bien seuls gérer la question. La France n'entrouvre ses portes qu'avec difficulté. Le mécanisme de relocalisation des migrants ne s'applique ni aux Britanniques ni aux Danois. Et les pays dits du groupe de Visegrad refusent absolument d'accueillir qui que ce soit. Seule l'Allemagne continue de faire figure d'exception. Julien aussi l'Allemagne, où il y a eu des manifestations ce week-end pour appeler à plus de solidarité européenne.
Oui, plusieurs milliers de personnes à Berlin, mais aussi à Munich et Cologne, se sont rassemblées avec un mot d'ordre: Wir haben Platz, nous avons de la place, et l'évacuation de tous les camps de réfugiés qui se trouvent sur des îles grecques. Avec aussi un symbole très fort, la présence à Berlin de la tante d'Alan Kurdi. Alan Kurdi, c'est ce petit enfant syrien mort noyé et dont la photo du corps sans vie, échoué sur une plage, était devenue il y a 5 ans l'expression de l'échec de la politique de l'Union européenne. Tima Kurdi a lancé à la tribune un appel sans équivoque: si je n'ai pas pu sauver ma propre famille, sauvons les autres.
Et cette pression citoyenne, Julien, ne semble pas vouloir retomber depuis la destruction du camp de Moria.
Absolument. Dès le lendemain de l'incendie, des rassemblements spontanés ont eu lieu pour réclamer l'accueil de personnes qui ont définitivement tout perdu. Mais cette pression s'est superposée à une autre, la pression médiatique. Pas un grand titre de la presse qui n'est titré sur le camp de Moria. Les journaux télévisés y ont tous consacré la quasi-intégralité de leurs éditions, sans compter les nombreuses émissions spéciales, quand dans d'autres pays européens, ce drame est passé sous le radar médiatique. Résultat, la question de l'accueil des réfugiés de Lesbos demeure au cœur des débats ici, d'autant que cette mobilisation a été portée par de nombreux élus locaux qui se sont très rapidement déclarés prêts à accueillir des familles et des mineurs isolés. Tout cela a certainement contribué à faire plier le très conservateur ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, lequel a tout d'abord campé sur son refus de toute nouvelle arrivée massive de réfugiés, un ministre qui constitue le gage donné par Angela Merkel à sa base la plus hostile aux réfugiés.
Angela Merkel, justement, peu après l'incendie du camp, on a vu des réfugiés en appeler à la chancelière pour les sauver. 5 ans après la crise de 2015 et l'accueil d'un million de réfugiés, Angela Merkel paraît toujours la seule dirigeante en Europe à avoir la volonté d'agir.
La volonté, la capacité, oui, mais avait-elle au final d'autres choix face à l'absence de solidarité européenne et son image aussi de chancelière prête à accueillir des réfugiés? Angela Merkel l'a répété après Moria, comme elle l'avait d'ailleurs fait en 2015. La question migratoire ne pourra se régler qu'au niveau européen, avec une répartition plus équilibrée des réfugiés. Et il semble que la Commission européenne ait enfin entendu cet appel. Elle s'est aussi imposée sur la scène intérieure, face à ses ministres, face à son parti, forte du bilan de 2015. Car malgré les énormes défis d'intégration et les très fortes secousses politiques qui ont suivi l'été 2015, l'Allemagne semble avoir bien géré l'arrivée des réfugiés, portée par un très fort élan et engagement citoyen. Le pays dispose donc de l'expérience et des moyens logistiques pour accueillir 1500 personnes de Moria, voire plus, selon les manifestants qui sont descendus ce week-end dans les rues.
En France, Julien, la question migratoire semble être devenue tabou, tant elle est politiquement explosif. C'est pas le cas en Allemagne, visiblement. Est-ce qu'on peut parler de méthode allemande?
Ce qui est certain, Juliette, c'est qu'il existe ici une culture politique qui favorise le compromis plutôt que de s'époumoner dans des débats stériles. Après l'émotion et la polémique sur le silence du ministre de l'Intérieur, les acteurs politiques se sont retirés de l'espace médiatique pour trouver une solution. Et quelques jours après, il y a eu cette annonce d'un accord sur le sort de 1500 personnes autorisées à venir ici. Un compromis loin d'être parfait, ce chiffre est critiqué pour être soit trop élevé, soit bien trop bas, mais il a le mérite de proposer une porte de sortie au niveau politique et à celles et ceux qui ont la chance de quitter les camps grecs.
La République tchèque fait partie de ces pays d'Europe centrale qui refusent d'accueillir des demandeurs d'asile hébergés dans des camps d'autres pays de l'Union européenne. Ni une condamnation par la Cour de justice de l'UE, ni le récent drame du camp de Moria n'ont fait bouger les lignes à Prague, qui s'est contenté d'un don de 100 000 euros à Athènes pour gérer la situation catastrophique. Correspondance d'Alexis Rosenzweig à Prague.
Prague n'est pas disposée à accueillir le moindre migrant sur son sol. Un refus répété depuis de nombreux mois par le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. L'accueil de quelques mineurs non accompagnés et bloqués dans les camps grecs avait été rejeté à nouveau en début d'année, malgré les demandes pressantes d'Athènes. Pour le ministre tchèque de l'Intérieur, des adolescents de plus de 16 ans originaires de pays comme l'Afghanistan ou le Pakistan peuvent représenter un risque pour la sécurité du pays. L'année dernière, la question de la prise en charge par la République tchèque d'une quarantaine d'orphelins syriens avait déjà provoqué une longue polémique qui s'est soldé par un projet de financement d'un centre d'accueil de ces enfants sur le sol syrien, un projet abandonné depuis. Certains parlementaires de l'opposition et des ONG ont lancé un appel au gouvernement tchèque pour aider davantage les personnes en détresse dans les îles grecques, mais rien n'y fait. Le refus d'accueillir des demandeurs d'asile est une constante à Prague, sur la même ligne que les trois voisins centre-européens qui forment avec la République tchèque le groupe de Visegrad, un groupe de pays membres de l'UE, aux intérêts parfois bien différents, mais qui restent soudés à chaque fois qu'il est question de refuser une quelconque répartition des réfugiés dans les différents pays de l'Union. Début avril, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie ont déjà été condamnés par le juge européen pour avoir manqué à leur devoir en la matière pendant la crise migratoire de 2015, sans réelle conséquence. Et avec la récente recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans le pays, la question migratoire sera loin d'être prioritaire pour le gouvernement tchèque dans les mois qui viennent.
C'est une décision de justice passée plutôt inaperçue en Italie. Un tribunal sicilien a condamné à 20 ans de prison trois migrants accusés de torture, de viol et de meurtre dans les prisons libyennes. C'est une première en Italie alors que le pays a renouvelé pour 3 ans son accord d'entente avec la Libye, pays de départ de nombreux migrants vers l'Europe. Les précisions de Cécile Debarge.
Ce sont 34 pages de récits glaçants, 34 pages où les survivants racontent un quotidien fait de privations, de brimades et de tortures. On nous donnait à manger une fois par jour et l'eau était rationnée, elle n'était même pas potable parce que c'était l'eau du robinet des toilettes, raconte un témoin. Dans le mandat d'arrêt émis par le parquet de Palerme à l'automne dernier, 5 hommes et une femme racontent en détail leur calvaire à Zawiya, une ville côtière à 45 km à l'ouest de Tripoli, en Libye, dans une ancienne base militaire transformée en prison pour migrants. Pris au piège en traversant la Libye pour traverser la Méditerranée et arriver en Europe, les migrants sont rançonnés pendant des mois. Ils demandaient entre 1 000, 1 500 ou 2 000 euros. Si on ne les avait pas, c'était les coups et la torture, raconte un témoin. À plusieurs reprises au cours de la journée, les gardiens venaient chercher les femmes pour les violer, détaille un autre. Si le récit de ces horreurs est arrivé sur le bureau des magistrats italiens, c'est parce que les victimes et les bourreaux sont arrivés en Italie, à bord du même bateau, sauvé au large des Olibiennes en juillet 2019. C'est leur présence sur le territoire italien qui a permis aux magistrats de s'emparer du dossier. Antonio Marchesi est professeur de droit international à l'université de Terame.
Deux Égyptiens et un citoyen guinéen ont été condamnés pour des faits commis en Libye à l'encontre de personnes dont aucune n'a la nationalité italienne.
Les trois bourreaux âgés de 23 à 27 ans ont été condamnés à 20 ans de prison pour traite d'êtres humains, violences sexuelles, torture, homicide, séquestration d'êtres humains à des fins d'extorsion et aide à l'immigration irrégulière. Une condamnation rare car le délit de torture n'est entré qu'en 2017 dans l'arsenal législatif italien, explique Antonio Marchesi.
C'est la première fois que sont condamnés pour torture des personnes qui ont commis les faits dans un autre pays.
Passé plutôt inaperçu en Italie, cette condamnation a pourtant l'énorme mérite de créer un précédent en actant de manière officielle que les lieux de détention de migrants en Libye sont des lieux de torture, analyse le professeur de droit international Antonio Marchesi.
C'est une chose que les ONG le disent, une autre que les Nations Unies le disent aussi, mais que des juges italiens commencent à leur tour à dire « Regardez, en Libye, on torture », c'est une étape très importante.
Car au cœur de l'été, et sans que cela ne crée grand débat, le Parlement italien a voté le renouvellement des accords avec la Libye afin de fournir une assistance économique et logistique aux gardes-côtes du pays. Il s'agit de limiter les départs vers l'Europe. La branche italienne d'Amnesty International a réagi à cette sentence en demandant que l'entière collaboration entre la Libye et l'Italie soit repensée.
L'opposition biélorusse demande à Bruxelles d'approuver les sanctions contre Minsk. Elle conteste toujours le résultat de l'élection du 9 août dernier. Malgré la répression, la population biélorusse veut voir Alexandre Loukachenko quitter le pouvoir. Alors, ce dernier se tourne une nouvelle fois vers la Russie. Il s'est ainsi rendu auprès de Vladimir Poutine à Sotchi la semaine dernière. Retour sur la personnalité de celui qui est surnommé le dernier dictateur d'Europe avec Anastasia Becchio.
Alexandre Loukachenko, les mains jointes, le corps tout entier tendu vers un Vladimir Poutine assis nonchalamment au fond de son fauteuil, les jambes largement écartées. Le langage corporel de la rencontre entre les présidents russes et biélorusses a largement été commenté. Valéry Karabalevitch, auteur de la seule biographie d'Alexandre Loukachenko disponible en français, le satrape de Biélorussie.
Ses gestes, le fait qu'il notait les mots de Poutine sur un carnet, tout cela était comique. C'était une démonstration de soumission très maladroite. Et c'est sans doute pour cela qu'il a, dans la foulée, organisé une réunion à Minsk pour tenter de gommer cet effet négatif qu'il a pu produire auprès des hauts fonctionnaires en jouant les soumis.
Rentré à Minsk, Alexandre Loukachenko multiplie les initiatives. Rencontre avec les fonctionnaires, apparition à un concert géant organisé exclusivement pour des femmes, comme en écho aux manifestations féminines hebdomadaires de l'opposition.
Les pays voisins refusent de reconnaître le résultat de notre élection. Et en suivant un scénario à la vénézuélienne, ils se sont trouvés une Guaido biélorusse et l'ont déclarée présidente.
Après avoir fait fuir sa concurrente Svetlana Tikhanovskaya en Lituanie, après avoir contraint plusieurs membres du conseil de coordination de l'opposition à l'exil et placé les plus récalcitrants à l'isolement, après avoir ordonné la répression violente des manifestations, Alexandre Loukachenko tente une phase plus politique, analyse Alexandre Feduta, qui a été son premier responsable de la communication lorsqu'il a accédé à la présidence en 1994.
Après avoir subi une phase de choc, il commence à agir différemment. Visiblement, il a obtenu des directives du Kremlin, lui disant qu'il faut renoncer à un usage trop violent de la force, et c'est pourquoi il s'essaye à un registre plus politique. Est-ce que ça pourrait convaincre la population? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il ne pourra pas convaincre la majorité, parce que la majorité des gens ne lui fait pas confiance, elle est fatiguée de lui.
Une fatigue qui se traduit tous les dimanches par ces manifestations qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes à travers le pays et ce mot d'ordre « va-t'en ». Surnommé Sacha 3%, son taux de popularité supposé selon ses détracteurs, l'ancien directeur de Sovkos, devenu président autocrate, dénonce un complot des Pays-Baltes ou de la Pologne pour le renverser et raconte que les Américains surveillent ses moindres faits et gestes grâce à leurs satellites en donnant directement des ordres aux manifestants via un centre de contrôle à Varsovie. Mais au-delà de ces déclarations fantaisistes, il est surtout prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, selon son biographe.
Il s'est retrouvé en état de stress psychologique parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à cela. Il continuait à croire qu'il était soutenu par la population. Et cela l'a poussé à faire des erreurs, comme par exemple s'attribuer 80% des voix à la présidentielle. S'il s'était attribué 51% et 45% à Svetlana Tikhanovskaya, une part importante de la population aurait pu y croire. Mais là, une majorité de gens a pris ça comme une insulte. Je pense que rien ne peut le contraindre à faire des concessions, parce que le pouvoir, c'est sa raison de vie.
La cérémonie d'investiture du président biélorusse doit avoir lieu avant le 5 novembre. L'opposition est déterminée à l'en empêcher. Alexandre Loukachenko pourrait être tenté de recourir une nouvelle fois à la force pour qu'elle ait lieu coûte que coûte.
Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.